sur VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, Amigro Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. La consommation mondiale de tabac diminue, mais il faut redoubler d'efforts, affirme l'Organisation mondiale de la santé.
Il y a beaucoup de personnes qui sont conscientes des méfaits du tabac pour certaines conditions telles que le cancer et les maladies du cœur circulatoire. Mais il y a quand même encore une lacune pour toute la totalité des maladies que peuvent causer le tabac.
Édouard Tursan-Despeigné de l'Organisation mondiale de la santé nous en dira davantage. Combiner un champ magnétique et la lumière pour lutter contre le cancer. Mais oui, des chercheurs français ont obtenu ainsi chez la souris une régression tumorale totale.
Le traitement, il vient de l'application d'un champ magnétique alternatif. La souris est placée dans un petit électroaimant. Donc ça existe à la taille humaine aussi. Et pour la photothérapie dynamique, c'est un laser.
Christine Ménager évoquera les travaux réalisés de concert avec Claire Willem pour le compte du CNRS en France. Les Sierra Leonais confinés à domicile ce week-end, le gouvernement tentant à nouveau de juguler l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Et Morgan Guiriec reviendra sur la foire aux sciences de la Maison-Blanche, ici à Washington. La consommation de tabac diminue à travers le monde, mais il faut redoubler d'efforts pour combattre l'industrie du tabac et protéger la santé publique, affirme l'Organisation mondiale de la santé. De nouvelles données révèlent une baisse de la consommation de tabac et une augmentation du nombre de non-fumeurs. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de l'OMS sur les tendances du tabagisme dans le monde, publié à l'occasion de la 16e conférence mondiale sur le tabac ou la santé, qui s'est tenue à Abu Dhabi ce mois-ci. La rencontre portait sur la lutte anti-tabac et les maladies non transmissibles, plus précisément les affections pulmonaires et cardiaques, les cancers et le diabète. En 2010, les États membres de l'OMS comptaient 3,9 milliards de non-fumeurs âgés de 15 ans, un chiffre qui devrait atteindre d'ici 2025 5 milliards. Cette tendance montre que les pays font des progrès, mais une action de bien plus grande ampleur est nécessaire pour endiguer l'épidémie de tabagisme, explique Édouard Tursan-Despeigné de l'OMS.
Disons que nous sommes dans la bonne direction vers l'objectif qui a été établi en 2013 par les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, qui était de réduire la prévalence ou la consommation du tabac de 30% en 2025 en comparaison avec le niveau de 2010. Or, nous voyons que, d'après les analyses qui ont été faites par l'OMS, il y a 125 pays qui sont dans une tendance qui mène vers cet objectif, mais il y a quand même un petit souci, c'est que ce que nous trouvons, qu'il y aura rien que 37 pays qui vont effectivement atteindre l'objectif. Et donc, bien que les autres pays sont dans la bonne direction, il faut continuer à redoubler de nos efforts pour que ceux qui sont dans la bonne direction arrivent à cet objectif, et ceux qui sont en train de soit taper dans un plafond ou même de monter un petit peu en hausse doivent retourner leur situation. Donc, dans l'ensemble, ça va, mais il y en a encore beaucoup de travail à faire.
On ne dispute plus aujourd'hui l'impact néfaste du tabac sur la santé, qu'il s'agisse du cancer du poumon, d'autres cancers. On ne dispute plus ce fait.
Il y en a beaucoup d'enquêtes, effectivement, qui nous laissent à penser ou qui nous indiquent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont conscientes des méfaits du tabac pour certaines conditions telles que le cancer et les maladies du cœur circulatoire. Mais il y a quand même encore une lacune pour toute la totalité des maladies que peuvent causer le tabac. Donc, par exemple, quand on regarde chez les femmes enceintes, chez les jeunes, il y a quand même un manque de conscience de la population sur les méfaits du tabac dans les conditions pour les femmes enceintes. Par exemple, le tabac peut causer des effets néfastes sur le poids des bébés quand ils naissent. Et ça, c'est terrible parce qu'un petit bébé qui naît en bas poids n'est pas seulement un bébé qui est tout simplement petit, mais c'est aussi des fonctions vitales de cet enfant qui ne sont pas développées et qui donc a des conséquences pendant toute sa vie et qui peuvent mener éventuellement à un plus grand risque de cancer, de maladies circulatoires, de diabète dans les années à venir pour cet enfant. Donc, bien que maintenant nous apprécions en grande ligne les néfastes du tabac, mais il y a encore du travail à faire parce qu'il y en a beaucoup d'autres conditions que les gens ne savent pas encore.
Le tabac est de plus en plus réglementé dans les pays occidentaux, non seulement l'Europe, l'Amérique du Nord, mais encore l'Australie. Par contre, les géants du tabac se sont rabattus apparemment sur l'Asie ou encore surtout l'Afrique, où il y a beaucoup moins de réglementation. Comment l'OMS vient en aide à l'Afrique pour aider à juguler ce fléau ?
Effectivement, nous avons constaté, surtout chez les hommes et en Afrique et dans la région méditerranéenne, une tendance à une hausse dans ces deux régions, et ce qui fait que ces deux régions ne sont pas du tout dans la bonne direction pour atteindre l'objectif dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'OMS continue à travailler à plein pied avec les pays. En Afrique, par exemple, l'OMS, avec le soutien de plusieurs organisations non gouvernementales, on a établi un centre de ressources en Ouganda, un centre qui sert toute l'Afrique. Donc il y a toujours l'OMS, il y a le bureau de l'OMS, mais là nous avons aussi un centre africain qui est contrôlé par les Africains et qui sont là pour nous aider à faire mieux contre le fléau qu'est le tabagisme en Afrique.
Monsieur Edouard Toursan d'Espeigné de l'OMS, il était joint en Californie aux États-Unis. Camille Grosdidier avec vous. Je vous accompagne pour cette édition de Carrefour Science et Santé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le président Barack Obama a annoncé lundi un engagement de 240 millions de dollars de la part du secteur privé pour renforcer l'éducation aux États-Unis dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Un ensemble de domaines communément appelés STEM. Le point avec Morgan Guiriec.
So we invented a device that can help people turn pages in a book.
Hey there, Mr. President.
How are you?
I'm doing very well. Good morning.
Good morning. What's your name?
My name is Sophia Sanchez Maez, and I'm a high school.
Le président Barack Obama s'exprimait à l'occasion de l'édition 2015 de la foire aux sciences de la Maison Blanche, qui expose les travaux des étudiants vainqueurs de toutes sortes de compétitions dans le domaine des STEM à travers le pays. Le chef de l'exécutif s'est promené parmi les projets scientifiques et il a pris le temps de discuter avec des élèves. Des jeunes filles lui ont montré un prototype de machine qui permet de tourner automatiquement les pages d'un livre, outil indispensable pour les personnes paralysées ou atteintes d'arthrite. Une lycéenne du Nouveau-Mexique a montré au président comment des algues pouvaient permettre de produire de l'électricité à bon marché.
J'ai utilisé une réaction chimique pour créer en quelque sorte une réaction afin de démontrer un gain net d'énergie. J'y arrive en éliminant l'étape la plus coûteuse du processus au plan énergétique.
Monsieur Obama s'est dit convaincu que les jeunes inventeurs avaient tous quelque chose à apprendre à leurs aînés.
But these young scientists and engineers teach us something beyond the specific.
Ces jeunes scientifiques et ingénieurs nous apprennent plus que les sujets spécifiques qu'ils étudient. Ils nous apprennent à remettre en question des hypothèses, à nous demander pourquoi quelque chose est d'une telle façon et comment on peut l'améliorer. Et ils nous rappellent qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, à essayer, à découvrir, à imaginer, et qu'il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour créer ou découvrir quelque chose de neuf.
Une centaine d'étudiants de 30 pays, vainqueurs de plus de 40 compétitions scientifiques et diverses organisations scientifiques, ont participé à la foire de cette année. Le président Obama les a encouragés à continuer d'inventer et d'innover, ajoutant que les États-Unis doivent encourager plus de jeunes à se lancer dans l'innovation scientifique.
So 5 years ago, we launched a campaign called Educate to Innovate.
Il y a 5 ans, nous avons lancé une campagne intitulée « Éduquer pour innover » pour aider un plus grand nombre de nos élèves à explorer la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer 240 millions de dollars de nouvelles contributions venues d'entreprises, d'établissements scolaires et de fondations du pays pour aider les jeunes à apprendre dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.
Le chef de l'exécutif a déclaré qu'aucun jeune ne devrait perdre l'occasion de briller en raison d'un manque de fonds. Grâce aux nouveaux engagements pris, le total des fonds promis par les universités et les entreprises pour approfondir l'étude des sciences et de la technologie aux États-Unis a atteint 1 milliard de dollars, a-t-il noté.
Camille Grosdidier pour le magazine Carrefour Sciences et Santé. Combiner un champ magnétique et la lumière pour lutter contre le cancer, eh bien, c'est ce qui a permis à des chercheurs français d'obtenir chez la souris une régression tumorale totale. Ils ont combiné dans un liposome, c'est-à-dire une petite bulle, des nanoparticules magnétiques et des photosensibilisateurs. Ensuite, ils ont injecté ces liposomes directement dans la tumeur. La combinaison de nanoparticules magnétiques et de photosensibilisateurs des chercheurs leur a permis de combiner deux techniques pour détruire intégralement les cellules cancéreuses. Ces résultats ont été publiés dans ACS Nano par Claire Willem et Christine Ménager, chercheurs CNRS. Ils témoignent de l'importance des thérapies multiples pour lutter contre le cancer. Christine Ménager, maître de conférence à l'Université Pierre et Marie Curie, revient sur les travaux des chercheurs et explique tout d'abord ce qu'est qu'un liposome.
Un liposome, c'est une vésicule artificielle qui est constituée de molécules qu'on trouve majoritaires dans les membranes biologiques. Donc c'est comme un petit sac avec une bicouche, comme une membrane, et donc ça délimite un compartiment à queue, donc de l'eau dans de l'eau.
En utilisant un liposome dans lequel vous avez placé des nanoparticules magnétiques et des photosensibilisateurs, vous êtes parvenu à avoir chez la souris une régression tumorale totale.
Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'était de combiner dans cet objet de taille nanométrique, quelques centaines de nanomètres, des particules magnétiques dans le cœur. Donc ces particules magnétiques sont connues pour chauffer sous champ magnétique alternatif. Ça s'est déjà utilisé dans le traitement de certains cancers. Donc c'est en phase clinique 2 ou 3. Donc elle provoque localement une élévation de température. Et dans la bicouche, donc la membrane dont je viens de vous parler, on met une molécule qui est un agent photosensibilisant qui, lui, va produire des molécules qui sont très toxiques, localement. C'est des radicaux libres, ça s'appelle. Donc localement, on va à la fois chauffer et produire des radicaux libres. Donc on va avoir ce qu'on appelle une thérapie combinée, hyperthermie plus photothérapie dynamique.
De plus en plus, les thérapies pour le cancer sont multiples, justement.
Oui, c'est tout à fait dans cette optique-là que le travail se place. C'est-à-dire, c'est plus s'attendre à bénéfice d'une seule thérapie, mais d'en combiner plusieurs. Donc là, c'est des thérapies qui sont physiques, en quelque sorte. Le traitement, il vient de l'application d'un champ magnétique alternatif. La souris est placée dans un petit électroaimant. Donc ça existe à la taille humaine aussi. Et pour la photothérapie dynamique, c'est un laser. Donc il y a deux stimuli externes qui viennent. D'abord, c'est l'hyperthermie. Ensuite, c'est le traitement avec la lumière. Et c'est l'association des deux qui conduit à la régression tumorale totale. Les deux traitements séparés conduisent à freiner la croissance tumorale, mais ne conduisent pas à la régression totale. Quand on combine les deux, on arrive à la régression totale.
Une seule thérapie ne permet pas du tout de stopper la croissance de la tumeur.
C'est ça.
Alors, quelle va être la prochaine étape pour les chercheurs ?
La prochaine étape, quel que soit l'objet que vous pouvez imaginer, là c'est un liposome, mais ça peut être d'autres. Donc je crois que l'étape, de toute manière, c'est de combiner. On peut rajouter d'autres thérapies. Hein. On pourrait imaginer d'amener dans cet objet une chimiothérapie, c'est-à-dire une molécule qui est connue dans le cas des traitements, du cancer du côlon, du sein, etc. Donc qui est connue pour être active. Et combiner ça avec de l'hyperthermie, comme on a fait, et du traitement laser. Pourquoi pas, hein, c'est rajouter encore une thérapie. Mais il y a aussi le problème du ciblage. C'est-à-dire que là, notre objet, il est injecté dans la zone à traiter.
Oui.
Alors que si on veut vraiment proposer ça comme traitement à long terme, comme médicament, il faudrait trouver une thérapie pour qu'après administration par voie intraveineuse ou par prise orale, pourquoi pas, que la molécule et que le traitement physique aillent sur la zone à traiter.
Il peut y avoir plusieurs zones, donc en fait à terme...
Il peut y avoir plusieurs zones, oui.
À terme, une injection ou alors quelque chose pris oralement pourrait traiter toutes les zones et donc assurer une vraie régression de toutes les tumeurs cancéreuses.
Oui, mais ça c'est... très compliqué parce que finalement les stratégies de ciblage chimique, puisque ça revient à ça, c'est-à-dire mettre une molécule de reconnaissance à la surface qui va pouvoir aller reconnaître une zone, et puis on sait quand même que s'il y a des métastases ou s'il y a d'autres zones à d'autres endroits, elles n'expriment pas forcément la même chose. Et donc souvent, non seulement quand ces objets sont chimiquement créés, quand on les injecte in vivo chez le petit animal, on sait que les stratégies de ciblage chimique sont compliquées. Enfin, on n'obtient pas forcément de très bons résultats. Donc, faut multiplier les stratégies de vectorisation, pourquoi pas physique, de vectorisation chimique, pour arriver à ce que on arrive à traiter à la fois toutes les zones et à limiter les effets secondaires.
Christine Ménager, maître de conférence à l'Université Pierre et Marie Curie et chercheur CNRS, elle était jointe en France. Ici Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute de Carrefour Science et Santé, au micro Camille Gros-Didier. Des millions de Sierra Leonais, à l'exception des agents de la santé, sont restés chez eux à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Une mesure radicale décrétée pour la deuxième fois en 6 mois afin de maîtriser une recrudescence de cas d'Ebola dans certaines régions du pays. Ce confinement était similaire à celui qui avait été imposé en septembre, souligne le Centre national de lutte contre Ebola. À l'occasion d'une gigantesque campagne de porte-à-porte, les autorités entendaient détecter les cas qui n'ont pas encore été signalés ou enregistrés. Des équipes étaient chargées d'interroger les habitants sur la présence de malades et de leur rappeler les dangers des pratiques funéraires rituelles impliquant le toucher du corps, particulièrement contagieux dans le cas de mort d'Ebola. D'après le Centre national de lutte contre Ebola, la population est devenue négligente, elle emmène les malades chez les guérisseurs traditionnels au lieu des centres spécialisés contre le virus à Ebola. Les autorités déplorent aussi les risques courus par ceux qui lavent les cadavres. Le point avec Salwa Jafari.
Village Rosenda, dans le nord de la Sierra Leone. Les enfants jouent dans la rue, les femmes font leur ménage, si ce n'est pour les rubans rouges et blancs qui entourent les maisons. On aurait dit que c'est une journée comme les autres. La population de Rosenda a été placée en quarantaine. Un jeune homme infecté est venu rendre visite à sa mère au village. Il est mort quelques jours plus tard, laissant derrière lui 50 nouveaux cas. Anthony Sessei, coordinateur pour la santé de la coalition, raconte ce qui s'est passé.
Les villageois qui se sont occupés de lui ont lavé son corps, ils ont tous été infectés. Même l'herboriste qui traitait le malade, lui aussi a succombé.
C'est pour éviter des erreurs comme celle-ci que le gouvernement a décrété une nouvelle quarantaine de 3 jours dans tout le pays. Un allègement des restrictions est cependant prévu pour la prière du vendredi et le dimanche qui coïncide avec une fête chrétienne. Près de 26 000 volontaires sont mobilisés pour faire du porte-à-porte, comme ici à Rosenda. La Sierra Leone, qui compte le plus grand nombre de cas, avait imposé un confinement à toute sa population l'année dernière. Le pays espère cette fois-ci en finir une fois pour toutes avec l'épidémie, surtout à la veille de la rentrée scolaire, prévue dans 3 semaines.
Ici Washington, Camille Grosdidier sur VOA Afrique. Vous suivez le magazine Carrefour Science et Santé. Un an après la déclaration en Guinée de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, la maladie n'est toujours pas jugulée. Alors que les Sierra Leonais étaient invités ce week-end à rester chez eux, eh bien en Guinée, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé à Conakry une nouvelle campagne de sensibilisation intitulée « Des mots contre Ebola ». Le but est de promouvoir la connaissance de la maladie pour mieux lutter contre la désinformation et la stigmatisation, dissiper les peurs, surtout prévenir tout excès de confiance et redoubler de vigilance dans cette dernière ligne droite vers zéro cas, tout en maintenant le soutien de la communauté mondiale. On écoute le correspondant de la Voix de l'Amérique en Guinée, Zakaria Camara.
Le chanteur guinéen Sékou Ba Bambino Diabaté, à l'occasion du lancement à Conakry d'une campagne mondiale des mots MOT contre Ebola.
Donc moi je crois qu'il faut se donner la main pour combattre et lutter.
12 mois après la déclaration d'Ebola, la Guinée lutte toujours contre le virus pour mettre fin à l'épidémie. Rabiatou Sira Diallo, ancienne présidente du Conseil national de transition, propose.
Il faut créer l'émulation entre les régions, entre dans les quartiers, entre les familles.
Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Par ailleurs, le gouvernement guinéen et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé la toute première vague d'essais cliniques d'un vaccin contre la maladie à virus Ebola dans un village touché par l'épidémie en Basse-Guinée, l'une des zones du pays où l'on trouve le plus de cas d'Ebola. Ces tests du vaccin VSV-EBOV, développé par l'Agence de la santé publique du Canada, ont été bien accueillis dans un village rural de la préfecture de Kouya, signale l'OMS. Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous pour Carrefour Science et Santé. Les parasites du paludisme peuvent changer l'odeur de leur hôte pour attirer les moustiques et propager leur progéniture, révèle une étude. Michel Joseph nous en dit plus.
Les parasites propagés par les moustiques sont la cause du paludisme chez l'homme et les animaux. La maladie ne peut se propager que par l'intermédiaire d'un insecte vecteur, un moustique. Les moustiques détectent leur cible, dont nous faisons partie, par les odeurs que nous exhalons, par la chaleur que nous dégageons et par le dioxyde de carbone que nous relâchons lors de notre respiration. Et justement, des chercheurs de l'école de médecine de l'Université de Washington à St. Louis, dans le Missouri, ont établi que des terpènes, c'est-à-dire des composés chimiques, émettent les odeurs qui attirent les moustiques. Un changement de parfum pourrait être utilisé non seulement comme outil de diagnostic, mais pour empêcher la propagation du paludisme, explique Audrey Odom, pédiatre et microbiologiste à l'Université de Washington à St. Louis. Notre équipe a documenté que le type de moustique qui transmet le paludisme peut détecter les composés spécifiques produits par les parasites, une capacité qui guide les insectes vers les personnes infectées, ce qui augmente les chances de propagation de la maladie, constate-t-elle. Agissent-ils vraiment comme nous le pensons en termes de promotion de la transmission du paludisme? Nous poursuivons des études pour savoir quelles protéines dans les parasites du paludisme produisent ces composés, explique Madame Odom. Prochaine étape, un essai clinique au Malawi impliquant des enfants souffrant de paludisme simple pour déterminer si les terpènes sont présents dans leur haleine ou leur sueur. Ces données seront comparées à celles prélevées sur des enfants hospitalisés mais ne souffrant pas du paludisme. L'idée est de montrer, si la théorie des chercheurs tient, que les parasites qui infectent le sang émettent bel et bien une odeur attirante pour les moustiques. on pourrait alors envisager de nouvelles stratégies pour lutter contre le paludisme. L'étude est parue dans la revue MBio. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 2 millions de personnes contractent le paludisme chaque année et près de 600 000 en décèdent. En majorité des enfants de moins de 5 ans vivant en Afrique subsaharienne.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivi.